Vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier.
Allez, danse, danse, viens dans mes bras. Allez, tourne, tourne, reste avec moi. Allez.
Alors, en ce jour de froidure, j'ai eu envie de vous réchauffer un petit peu et qu'on parle ensemble d'avenir, peut-être de société d'avenir, de voir ce qui dysfonctionne un peu et ce qu'on pourrait vraiment améliorer dans notre époque et notre société. Et à ce sujet, pour vous aider, vous éclairer, vous donner des lumières, j'ai un très grand invité, quelqu'un de passionnant que j'aime beaucoup, Guillaume Villemot. Bonjour Guillaume.
Bonjour. Merci.
Alors Guillaume est un auteur connu, ami d'Alexandre Jardin. Il commet un très beau livre qui s'appelle « Quand le mépris devient la règle » aux éditions de l'Aube, la maison d'édition de ce grand sociologue dont il nous parlera, qui est son ami. Et j'ai aussi la chance d'avoir une de nos chroniqueuses historiques qui est là pour lui poser des questions aussi. Irène Cazenave, bonjour.
Bonjour.
Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est une émission très spéciale parce que vous n'aurez pas à nous poser de questions, vous allez juste écouter toutes les questions que nous allons poser à notre invité Guillaume Villemot. Guillaume, bonjour, bonjour. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, dire quel est votre parcours, ce que vous avez fait de votre vie, vous diriez quoi aux auditeurs du Dynamique Radio ?
Un jour, j'ai un de mes enfants qui m'a demandé le point commun entre tout ce que je faisais. J'ai mis un certain temps avant de lui répondre et je lui ai dit « curieux ».
Très joli mot.
Parce que je crois que finalement c'est ce qui m'a toujours guidé et ce qui continue encore à m'amuser. J'ai un parcours assez classique puisque j'ai un parcours universitaire en fac d'histoire pendant 2 ans, et au bout de 2 ans je me suis rendu compte que j'avais certes une passion pour l'histoire mais qui n'était pas suffisante pour devenir prof ou chercheur, et donc j'ai laissé tomber et suis revenu sur un métier de passion pour le coup qui est la pub, et j'ai créé une première agence qui était une agence d'événementiel en ayant organisé un événement que je continue à trouver très drôle qui s'appelait les journées du caleçon à Cabourg. On avait en tout cas la grande mode du caleçon et on jetait du haut d'un hélicoptère des caleçons sur la plage de Cabourg.
Pas mal comme idée.
et puis après, je suis rentré dans les agences beaucoup plus classiques et beaucoup plus traditionnelles jusqu'à en co-diriger une aujourd'hui avec 2 autres associés.
Qui s'appelle Et vous, je crois.
Qui s'appelle Et vous, absolument.
Alors, on vous invite surtout, n'est-ce pas, Irène, pour ce nouveau livre qui nous a vraiment beaucoup plu. Chers amis auditeurs, je vous conseille vraiment de le découvrir et on va égrener certains chapitres de ce roman, bien sûr que non, de cet essai, de ce pamphlet. On verra ce que Guillaume veut mettre comme étiquette dessus, qui s'appelle « Quand le mépris devient la règle ». D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour traiter de ce thème du mépris dans la société française ?
Alors, il y a eu plein de choses. D'abord, une expérience que j'ai menée, qui a été une expérience un peu malheureuse quand j'ai créé une structure qui s'appelait l'Agence des quartiers, qui avait pour but de faire changer...
Pourquoi malheureuse, Guillaume ?
Parce que ça s'est mal fini et que ça s'est terminé au tribunal de commerce et que quand une expérience se termine...
C'était une belle idée pourtant. Racontez l'idée aux auditeurs.
L'idée, c'était de donner aux gens qui vivent dans les banlieues, qui représentent 8% de la population française et qui sont souvent privés de leur propre récit, c'était de donner la possibilité à des jeunes de créer et de raconter leur propre récit et d'avoir accès à des écoles de journalisme, parce qu'elles sont aujourd'hui réservées, puisqu'il faut avoir fait au moins Bac+3 pour rentrer dans une de ces écoles. Et donc, on a lancé cette aventure à quelques-uns. Et on a eu le bon goût ou la bonne idée de lancer ça en janvier 2020. Et pour produire du contenu et du contenu journalistique, vous le savez, il faut être dehors, il faut pouvoir produire des contenus, pouvoir les vendre, etc. Et donc quand vous avez un confinement qui démarre en mars, et puis ensuite il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi moi des erreurs que j'ai pu faire en voulant aller trop vite. Tout ça mis bout à bout fait que ça s'est hélas arrêté. De ça, c'est quand même resté pas mal de choses. D'abord, la fierté de pouvoir avoir produit une émission pour France Télévisions qui s'appelle Quartier Pop. Qui est passé d'abord en programme digitaux, et où on a donné à 4 jeunes issus de ces quartiers la possibilité d'aller raconter et de créer leur propre récit de ce qui se passe dans les quartiers. Et aujourd'hui, cette richesse que vous retrouvez donc, dans ces plus de 1000 quartiers, 10 quartiers prioritaires en France, on les a essayé de les organiser autour de sujets, autour du sport, autour du patrimoine. Il y a un patrimoine formidable dans les banlieues aujourd'hui.
Oui, c'est très riche.
Exactement, il se passe plein de choses. Et donc l'idée, ça a été à chaque fois que ce soit ces jeunes qui viennent eux-mêmes raconter leurs propres histoires. Et donc ça a été diffusé d'abord sur les canaux digitaux de France Télévisions, et ça sera diffusé courant mars effectivement troisième partie de nuit sur France 3.
Irène Cazenave, donc évidemment vous connaissez le parcours de Guillaume Villemot. Qu'est-ce que vous pensez de son livre et quelles questions auriez-vous envie d'emblée de vous lui poser en début d'émission ?
Alors, en début d'émission, mais là, j'ai envie de rebondir sur cette expérience, justement, des quartiers, parce qu'à la fois, vous dites que c'est une expérience qui a été malheureuse, et pourtant, il y a des très belles choses qui en sont sorties. Et c'est une expérience qui est encore récente. En quoi c'était une expérience heureuse ?
Parce que finalement, moi, j'ai découvert encore plus des talents que je savais exister dans ces quartiers-là, que j'ai découvert que, malgré tous les obstacles, on pouvait faire confiance à des gens auxquels aujourd'hui on ne tendait pas forcément assez la main, et que de tout ça naissait quelque chose de formidable.
Et pourtant, un jeune, à un moment donné, au début, on va rentrer dans votre livre, hein, Guillaume, d'accord ? Au début de votre livre, dans un chapitre, il vous rentre dedans et vous rendez, mais pourquoi quelqu'un comme vous vient s'occuper de nous ? Qu'est-ce que vous venez de faire là, monsieur ? Et j'ai trouvé ça, d'ailleurs, votre réponse, vous allez la dire à nos auditeurs, mais il vous dit, hein, vous, votre profil, qu'est-ce que vous venez faire là ?
Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, entre autres, c'est que j'en ai assez qu'on nous dise. Parce que vous avez fait tel type d'études, parce que vous avez fait tel parcours, parce que vous avez tel profil, parce que vous avez telle origine, vous ne pouvez être assigné qu'à une seule chose. Or, par rapport au mot que j'employais tout à l'heure pour qualifier tout ce que je peux faire, qui est la curiosité, je pense que si vous n'avez pas de curiosité pour les autres, vous ne pouvez pas aller travailler, aller vous tendre la main, non pas pour aller tendre la main, mais pour aller rencontrer les autres et faire des choses formidables les uns avec les autres. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec l'Agence des quartiers et que je continue à faire autrement aujourd'hui, c'est cette logique de m'intéresser aux autres, non pas dans un souci, j'allais dire ethnographique, c'est pas mon boulot et ça, je sais pas le faire, mais dans un souci simplement de se dire que la société fonctionne si elle fait tomber les verticalités et les murailles dans lesquelles aujourd'hui on essaie de nous installer.
Vous avez le goût des autres, hein, titre du magnifique film de Jaoui Bakri. On passe une page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. Vous allez voir, Guillaume Villemot va vous parler de pas mal de choses. Restez avec nous, à tout de suite.
Comme une star de ciné, accoudée au jukebox, elle rêvait qu'elle posait. Juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Na-na-na-na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu. Perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalos. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio, décor couleur mentalos, perdu dans sa mégalo. Et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Jolie des mythos, couleur mentalo. Mmh, mmh, mmh.
Monsieur Eddy qui nous parle des yeux couleur Montalo. Eh oui, toute une époque, l'époque de la dernière séance. J'ai toujours avec Christophe Médici dans Pour vivre heureux, vivons coachés. Dans cette émission où on parle de tous les sujets qui traitent ou de la sociologie de notre époque ou de la psycho. Et nous avons cette chance d'avoir Guillaume Villemot avec nous, auteur, fondateur de boîtes de com et notamment de certains festivals dont nous parlerons. Guillaume, nous en étions à cette histoire de cette relation avec les jeunes des quartiers. J'ai envie de vous demander, à un moment donné, vous parlez de certaines personnes qui sont des profils que vous appelez les sachants.com. Pour les auditeurs de Vivons Coachés sur Dynamique, qu'est-ce que c'est les sachants.com? Guillaume Villemot.
Les sachants.com, c'est toute cette population qu'on voit apparaître beaucoup sur les plateaux de télé, un peu dans les émissions de radio, qui, sous couvert d'avoir été passé un peu de temps sur Internet et d'avoir été étudié un sujet, pensent qu'ils savent autant, voire même dans certains cas mieux, qu'un médecin, qu'un économiste, etc. Et on a vu toute cette population apparaître, entre autres au moment de la crise Covid numéro 1, où on pataugeait quand même tous allègrement, et ça me paraît toujours très surprenant aujourd'hui qu'on soit en capacité de revoir l'histoire à l'aube de ce que l'on sait aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au moment où la crise a démarré. Et tous ces gens sont intervenus sur les plateaux télé en disant « mais moi je sais ». Et moi je trouve que c'est très dérangeant parce que le « moi je sais » veut dire qu'à aucun moment on laisse la place au doute. Et à aucun moment, on peut se dire simplement ou reconnaître, un, qu'on puisse se tromper, et deux, qu'on puisse ne pas savoir.
Bien sûr.
Et moi, je trouve que le fait de ne pas savoir n'est pas choquant en soi, au contraire.
On prouve son humilité.
Par exemple.
Et sa grandeur.
Exactement. Et donc, c'est ça, cette population des sachants.com, c'est-à-dire que parce que je vais sur Internet, parce que je vais y passer 5 minutes, 10 minutes, peut-être même un peu plus, hein, peu importe, mais je reviens chargé de certitudes, et j'assène ces certitudes comme étant des vérités. Et c'est là où, pour moi, c'est dangereux et dérangeant.
Irène Cazenave.
Oui, à la fois c'est dérangeant et à la fois ça répond à un besoin dans une société complètement anxiogène où les frontières sont mouvantes, d'avoir des gens qui sont très péremptoires, qui affirment des choses, c'est très rassurant. Mais
vous
c'est
voulez
une
dire que ça donne la culture du clash? J'adore BFM, CNews et tout ça.
Mais en fait, c'est un côté très rassurant d'avoir des gens péremptoires qui assènent des vérités. Mais en fait, c'est une espèce de réassurance qui est complètement illusoire et qui fait que déplacer, voire même nourrir le problème.
Guillaume Villemot.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qu'on aime dans l'attitude, parce qu'on est quand même, on les aime, puisqu'on regarde les audiences de ces émissions, on voit bien qu'il y a du monde, donc on n'est pas forcé de les regarder, de les écouter. Mais je pense qu'ils nous emmènent sur un terrain qui nous rassure quelque part. Mais là où c'est dangereux, c'est que du coup, on perd son propre libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils nous assènent cette vérité, et on dit, ah ben ouais, ça doit être vrai.
Et peut-être qu'on devrait faire la distinction, je ne sais pas si tous les deux vous allez être d'accord, mais on va le dire à nos amis auditeurs, entre ce que j'appelle moi les sachants et les savants. La différence entre le sachant et le savant, c'est comme disait Guillaume à un moment donné, et je suis assez d'accord, le sachant est dans la certitude. Or, la certitude est le signe d'une pensée morte. Le savant, il dit, vous savez, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je travaille sur cette question. Qu'est-ce que je sais? Et deuxième chose qui distingue le sachant de le savant, du savant, pour moi, c'est la dimension généreuse du savoir qu'a le savant. Le savant, n'est-ce pas, il dit ce proverbe magnifique que j'adore, ce que je sais, si je te le donne aujourd'hui, je le garde pour la vie. Si je le garde, je le perds. Alors que le sachant, il t'assène son savoir, il t'écrase la tête avec ce Guillaume Villemot. Qu'en pensez-vous?
Non, mais je pense que effectivement, cette notion, cette différence, elle est intéressante entre le sachant et le savant. Et je pense que le savant, il crée. Ça ne le gêne pas d'avancer dans le doute. Et au contraire, le doute participe même de son travail et de sa réflexion qu'il peut avoir. Or, on rentre aujourd'hui dans un monde où le fait de ne pas savoir devient quelque chose d'impensable. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans une société où on doit tout savoir, tout avoir tout de suite, éventuellement l'avoir gratuitement. Et il y a une espèce de dévalorisation globale d'un certain nombre de choses. Alors dans certains cas, c'est très utile et c'est très bien. Et moi, je suis le premier à trouver que c'est formidable que, par exemple, on réussisse réellement à ce que les vaccins soient donnés en libre accès à tout le monde et gratuitement, y compris pour le continent africain, en disant il n'y a pas de raison que les labos se fassent de l'argent sur le dos du continent africain pour la généralisation du vaccin. Mais en revanche, je pense que il faut qu'on réapprenne à douter. Il faut qu'on réapprenne à avoir surtout, c'est confiance dans l'autre. Et pour avoir confiance dans l'autre, il ne faut pas que l'autre dise.
Alors, on en vient au cœur de votre livre, là. Parce qu'on a là, c'est un peu en périphérie quand même, là. Mais on va arriver au cœur, chers amis auditeurs, du livre, du pamphlet aux éditions de l'Aube qui s'appelle Quand le mépris devient la règle. C'est-à-dire que vous, votre thèse, Guillaume Villemot, et on va discuter de cela. Et chers amis auditeurs, écoutez bien, parce que c'est vraiment pertinent. Guillaume, vous estimez qu'il y a une clanisation de notre société depuis plusieurs décennies qui se renforce de plus en plus. D'abord, primo, pour les auditeurs, clarifier ce que vous expliquez, être la clanisation de la société française.
On vit par petits groupes, on vit par clan. C'est-à-dire que j'appartiens à un clan qui peut être un clan vestimentaire, qui peut être un clan géographique, qui peut être un clan ethnique, qui peut être un clan religieux. Et donc, je me referme sur ce qu'était la société historiquement, c'est-à-dire un tout petit nombre et un tout petit groupe avec lequel je me reconnais. Et le principe du clan, c'est qu'il progresse en allant piquer de la place ou en allant gagner de la puissance en allant conquérir les autres. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que du coup, il n'y a plus ce mélange qui fait la force. Quand on voit aujourd'hui, c'est amusant de travailler sur l'origine des mots et l'origine des mots français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que, par exemple, le mot abricot, ben, c'est un mot qui a une origine, ou le mot barrière, sont des mots qui sont des mots d'origine arabe. Mais parce que notre culture s'est faite par addition successive, et non pas par remplacement, mais par addition. Et aujourd'hui, on se met dans une logique de remplacement. Ben, la logique de remplacement fait qu'elle fait naître des clans, alors que la logique d'addition fait qu'elle fait naître de la multiculturalité, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui est notre force et c'est ça qui est notre différence.
L'hypnothérapeute que vous êtes, Irène Cazenave, la clinicienne, quelles questions aimeriez-vous poser à notre auteur ?
Il y a deux mouvements qui sont, j'ai l'impression, concomitants, à la fois ce clivage et à la fois on est quand même une société de métissage. Et en tant que thérapeute et clinicienne, moi j'ai des gens qui sont métissés, qui sont originaires de plusieurs origines, et il y en a de plus en plus qui vivent très mal justement par rapport à cette clanisation, cette séparation. Mais les deux mouvements sont concomitants. On est quand même une société de métissage malgré tout, malgré cette clanisation.
Et on a du mal à considérer que ce métissage soit une chance. Ça c'est un vrai problème. J'écoutais, il y avait l'autre soir, il y avait un reportage sur Yannick Noah qui est retourné vivre à Yaoundé au Cameroun, et il disait à un moment donné, ça m'a frappé, il dit j'avais envie de retrouver ma négritude, parce que finalement c'était quelque chose qui lui manquait. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas à créer une société où finalement toutes ces origines, on puisse les vivre n'importe où, on n'est pas obligé de retourner en Afrique pour vivre son origine africaine. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que cette notion de métissage aujourd'hui était quelque chose qu'on a du mal effectivement à accepter.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Pardonnez-moi de vous couper, mais sur un plan psychosociologique, quand on voit les fonctionnements sociétaux et même groupaux, quand on parle de clanisation, moi, je fais toujours un écho en tant que psychosociologue avec l'immaturité psycho-émotionnelle de quelqu'un. Pourquoi ? Je m'explique. Quand quelqu'un est mature, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'une énorme frange de la population, et quel que soit leur âge, les gens fonctionnent dans une espèce de bonne distance relationnelle. On se comprend, chers amis auditeurs, et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que CF, mon modèle des cercles de qualité relationnelle dans ma méthode. Mais c'est pas ça qui se passe, comme dit Guillaume Villemot, avec les gens qui clanisent. Et vous, Irène, vous comprenez bien aussi ça en tant que thérapeute. Vous l'avez dans votre cabinet tous les jours. La personne qui clanise, ce soit dans une société au niveau macro ou dans une entreprise au niveau micro ou dans une famille ou ce que vous voulez, il fonctionne de trois manières, chers amis auditeurs. Il y a je, il y a le clan et il y a le reste du monde. Mais volins nolins, on est en train de parler de trois figures des êtres humains là qui fait des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de gens. Le militant fonctionne comme ça. Le supporter fonctionne comme ça. Il y a le clan des supporters de l'OM ou du PSG et le reste du monde. Et ils seraient prêts à tuer. Et le fan. Il y a le clan des fans de Johnny ou de Céline Dion et le reste du monde. Et ça, Volins Nolins, excusez-moi, mais vous, Guillaume, comme moi ou comme vous, Irène, quand on avait quand on avait dans nos chambres des posters, on avait 12, 13, 14 ans. Je n'ai même pas besoin de vous le dire à tous les deux qui êtes sur le plateau, que vous n'en avez plus aujourd'hui. Bah, pas la personne de 50 ans qui est ou fan, ou militante, ou supporter. Guillaume Bimot, ça vous parle ce que je suis en train de dire là ?
Oui, mais je pense que c'est y a une dureté dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de réassurance et qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose. Et que, effectivement, la notion de clan, qu'on soit un adepte de Johnny ou du PSG ou de l'OM, peu importe, ça nous réancre quelque part. Or, cette vraie difficulté, et ça rejoint la notion du métissage, c'est que je ne sais pas où sont mes racines, ou on ne me laisse pas planter mes racines là où elles viennent, ou de là où elles viennent, en tout cas. Et encore une fois, quand je reprends cette interview de Noah, le sentiment que ça me donnait, c'était qu'il était totalement, qu'à un moment donné, son déracinement avait été tellement fort qu'il avait besoin d'aller reposer ses racines là où naturellement pour lui elles avaient, et elle rappelait à des années qui étaient des années heureuses avec ses parents quand il vivait au Cameroun, etc. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui nous manque le plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se retrouver là où on veut se poser.
On passe une page musicale, vous voyez, restez avec nous, nous sommes dans un débat passionnant, vous n'êtes pas sur France Culture, vous êtes sur Dynamique Radio, mais on les vaut bien. À tout de suite, restez avec nous.
la voyais pas comme ça ta vie. Pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal. Cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le bagage de l'ambiway. Tu la voyais pas comme ça ta vie. Tapio capotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen. La grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu la voyais pas ici l'histoire. Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir. Comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne. Loupé capitaine, bateau de semaine. D'une drôle de fête foraine. Tu la voyais pas comme ça frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve là on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le bagage.
C'est bon parce qu'il n'y a plus de lasique maintenant. Et oui, les chanteurs sont des génies. Souvent, ils sont dans une lucidité incroyable. Le grand, l'immense Alain Souchon nous parle du bagad de l'Andy Way. Vous êtes toujours très bien sur Dynamique Radio avec Christophe Médici dans l'émission Pour vivre heureux, vivons coachés, la 650e. Toujours avec une des chroniqueuses historiques, Irène Cazenave. Irène, c'est depuis 2015 qu'on fait cette émission, vous imaginez.
Et oui. Et toujours avec le même plaisir.
Toujours avec le même plaisir. Et c'est à chaque fois une nouvelle fois. Et là, nous avons comme invité Guillaume Villemot. Rebonjour Guillaume.
Rebonjour.
Toujours auteur de ce formidable livre. Vraiment, je vous conseille de le lire, Quand le mépris devient la règle, aux éditions du Loom. Guillaume, vous dites à un moment donné que la France a un problème avec certaines périodes de son histoire. Allez, on met les pieds dans le plat. Parce que vous dites ça, à un moment donné, il serait peut-être bien qu'on soit lucide avec certaines périodes de notre histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et expliquer aux auditeurs de Vivons Coachés ?
Que probablement une des raisons de cette clanisation de la société et de cette absence de capacité, de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à vivre ce métissage, c'est qu'on oublie de raconter des pans entiers de notre histoire. Ou qu'on les raconte mal ou qu'on les raconte que d'une certaine façon. Aujourd'hui, moi, je suis très frappé parce que je travaille sur ce sujet depuis un certain temps maintenant. Il y a un personnage qui est absolument central dans l'engagement et dans ce que De Gaulle réussit à faire quand il part à Londres, c'est Félix Eboué. Je pense que si vous interrogez des gens, des jeunes aujourd'hui, ou que vous regardez la place que Félix Eboué a dans les livres d'histoire, c'est réduit d'année en année, ça s'est réduit de plus en plus. Alors, c'est pas parce qu'il est noir, je peux pas croire que ce soit que ça, mais on a en tout cas gommé et raconté l'histoire d'une certaine façon.
Pour les plus jeunes Félix d'entre Eboué, nous, c'était le grand-père de Fabrice Eboué, le comique.
Non, même pas. Rien à voir. Ah bon. Non. Félix, il est, c'est le premier gouverneur noir français dans les colonies françaises de l'époque. Et c'est lui qui, au moment où De Gaulle prononce son appel le 18 juin, va rallier avec la France coloniale de l'époque, c'est-à-dire avec le continent africain, va rallier De Gaulle, permettant à De Gaulle d'avoir ce qui lui manquait quand il était à Londres, c'est-à-dire tout d'un coup des territoires, plus une armée, plus des millions de personnes qui vivaient là. Et ça permet à De Gaulle de peser dans ces négos qu'il va avoir d'abord avec les Anglais et ensuite avec les Américains. Et ce personnage qui aujourd'hui est au Panthéon est totalement occulté des livres d'histoire.
Oui, bien sûr.
Mais on a la même chose sur la guerre d'Algérie, on a la même chose sur des... Quand vous voyez la difficulté qu'on a eue à juger et à reconnaître la collaboration du gouvernement de Vichy à l'époque, de la Seconde Guerre mondiale, pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces pans entiers de notre histoire, on les raconte selon une certaine façon, simplement un certain prisme. Alors c'est un deuxième bouquin, qui est une suite de celui-là, que j'ai fini d'écrire, qui s'appelle « Nos mémoires effacées », et qui raconte ça. C'est-à-dire que
on vous réinvitera pour
bah
celui-là.
Avec plaisir. Ouais, ouais. On a tendance à ne raconter l'histoire que d'une façon terriblement jacobine, qui date d'avant la Révolution française, mais entre autres qui a été accentuée avec la Révolution française et ensuite avec la défaite de 1870. C'est-à-dire qu'on a une vision centrale d'un certain nombre de choses et on oublie tout ce qu'on considère comme étant périphérique.
Irène Cazenave, qu'avez-vous envie de poser comme question à Guillaume Villemot?
Déjà une remarque là-dessus, effectivement, sur comment se construire alors que l'histoire est pas que l'histoire est pas racontée, est pas nommée, qu'il y a des pans entiers, qu'il y a des peuples entiers ou même des genres entiers, puisque les femmes sont aussi effacées de beaucoup de livres d'histoire. C'est très difficile de se construire et de se sentir justement faisant partie d'une nation quand la construction de la nation est complètement biaisée. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est d'arrêter d'occulter, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait des vrais récits. On parle du récit national, mais que le récit national, il ait tous les chapitres qui soient adossés. Les chapitres positifs comme les chapitres moins positifs. Si vous prenez l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est le travail qui a été orchestré, entre autres, par Macron avec Stora aujourd'hui. C'est-à-dire de dire il faut qu'on ait une vision qui soit la plus globale possible, par exemple sur la décolonisation, et qu'on appelle un chat un chat. On se rend compte aujourd'hui à quel point c'est difficile de parler de ces sujets-là. Mais je pense que ce qui permet de le faire, et c'est pas naïf de ma part en disant ça, c'est aussi la confiance dans les gens qui racontent. Aujourd'hui, savoir que la guerre d'Algérie est mieux racontée par les gens qui sont issus de ce qu'on appelle l'ONACVG, qui est l'association qui gère les anciens combattants, les blessés de guerre et les cimetières militaires, que par l'éducation nationale, moi, c'est tant mieux s'ils le font, mais c'est dommage, parce que je pense que l'éducation nationale devrait s'en emparer.
Guillaume, c'est que toute politique et tout régime et tout gouvernement s'occupe de passer des valeurs et s'occupe, entre guillemets, d'influencer, voire d'orienter leur peuple. Et la discipline histoire, parce qu'il y a à la fois l'histoire avec un grand H qui est l'histoire des humains, et puis il y a la discipline histoire qui est enseignée, qui enseigne l'histoire, et vous et moi sommes d'anciens de vieux étudiants en histoire, et effectivement passe des valeurs et oriente d'une manière complètement subjective. On voit comment Cuba a pu parler de l'histoire, mais comment l'URSS à l'époque parlait de l'histoire, les nazis n'en parlons même pas. Et c'est un vrai sujet, parce qu'il y a une orientation et une influence politique là-dessus. Et je crois que vous êtes très militant, notamment avec votre ami Alexandre Jardin, ou avec qui vous avez fondé Bleu, Blanc, Zèbre. Zèbre. C'était peut-être aussi à l'origine de ça. Vous pouvez en dire deux mots aux auditeurs de Dynamique Radio, de Bleu, Blanc, Zèbre avec Jardin ?
Alors, Bleu, Blanc, Zèbre avec Alexandre, l'idée est née un jour de dire on fait des trucs chacun dans son coin pour essayer de régler un problème de la société. Alors, très modestement, chacun dans son petit coin fait une petite chose. Bah, plutôt que de rester, et ça rejoint cette notion de clanisation de la société et de verticalité de la société, plutôt que chacun travaille dans son coin, l'idée c'était qu'on avance tous ensemble. Et parce que le jour où vous avez un besoin de logement, d'entreprise, de création d'entreprise, de trouver un boulot, d'avoir un crédit relais ou autre, vous ne demandez pas à la personne qui est en face de vous si c'est une association, si elle est une entreprise, si elle est une collectivité locale. Vous voulez juste qu'on règle votre problème. Et ce qu'on a voulu faire avec Alexandre quand on a créé les EBS, c'était de dire tous les mots MAUX de la société ont probablement leur solution qui existe quelque part. Encore faudrait-il que les gens sachent que ces solutions existent et qu'on les mette en avant. Et l'idée de Bleu Blanc Zeb, c'est ça. C'est de mettre en avant des solutions qui existent, qui sont portées sur la lutte contre l'illettrisme par un formidable éditeur qui s'appelle Vincent Safra, qui a monté une maison d'édition qui s'appelle Lire, c'est partir, qui chaque année vend 3 millions d'exemplaires de livres à 80 centimes l'exemplaire. Il les vend en pied d'immeuble.
Excellent.
Personne n'a jamais entendu parler de Vincent, sauf les 3 millions de personnes qui lui achètent des livres tous les ans. Etc., etc. Vous avez dans l'éducation, il y a des programmes formidables qui existent. Quand à l'époque, on a fait partie des premiers à avoir valorisé ce qu'étaient les compte nickel à l'origine, et c'était une façon pour des gens qui étaient sortis du système bancaire de pouvoir trouver une solution alternative. Mais tout ça, ça repose toujours sur le même mot aussi. C'est à la fois la curiosité, mais c'est aussi la confiance. Et ce qu'on a toujours dit, et moi c'est ce que je prône entre autres dans ce livre, c'est il faut qu'on passe de la société de défiance à la société de confiance. Comment voulez-vous vivre dans une société si vous ne faites pas le contrat de confiance? Pour moi, c'est la base de tout. Et comment voulez-vous vivre dans une société si vous n'arrivez pas à faire confiance à la personne qui est en face de vous? Quand vous avez une relation humaine, je ne parle même pas de relation amoureuse, mais une relation humaine de base, si vous n'avez pas confiance en la personne qui est en face de vous, c'est mort.
Et pour cela, il est évident qu'une confiance, ça se muscle, ça se gagne et ça te renforce. Quand on la trahit, et vous voyez à qui je veux penser, hein, nos amis les élites, qui s'occupent du vivre ensemble normalement, et je parle des politiciens, à un moment donné, que tu sois maire, député ou ministre et tout ça, qu'à un moment donné, ce n'est fait que de chausse-trappe, de mensonges, tu votes pour lui pour un programme X, une seconde, une fois qu'il est élu, il te fait exactement l'inverse. Et ça, c'est le cas droite-gauche confondu, hein, c'est tous les mêmes. Ben, à un moment donné, la confiance, elle n'existe plus, il n'existe plus qu'un climat de défiance. Et il est là le problème. Irène Cazenave, qu'en pensez-vous de ce que nous dit notre invité?
Effectivement, il y a cette question de faire confiance à l'autre. Et moi, je vais revenir sur le côté psy. Pour faire confiance à l'autre, il faut aussi pouvoir se faire confiance à soi. Et ce qui se passe aussi beaucoup chez les jeunes de banlieue, c'est qu'ils se sentent pas légitimes, qu'ils se sentent pas justement parce qu'ils font pas partie du roman national ou pas suffisamment.
Ils sont dans la banlieue, le lieu du banc, n'est-ce pas, nous les anciens étudiants en histoire. C'est ça, le lieu du banc où t'es banni.
C'est
la
ça.
La banlieue, lieu où t'es banni.
Donc ils se sentent pas accueillis, enfin ils se sentent aussi méprisés, etc. Donc il y a... ils ont du mal à se faire confiance déjà à eux-mêmes. Et c'est la première étape avant de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et la question, c'est aussi comment leur redonner confiance. Comment leur dire qu'on les voit. Je te regarde, je te vois, et je sais que tu as de la valeur. Enfin, ça passe aussi par là.
Excellent. Guillaume Vimeau.
Je pense que la notion de confiance, enfin vraiment, c'est la base de tout. Et cette société dans laquelle on est aujourd'hui, elle a tendance à considérer la confiance comme étant... un truc un peu bizarre et un truc qui n'a pas de raison d'être. La personne qui est en face de moi va pas spontanément, je me souviens d'avoir été élu pendant un temps et je m'occupais du logement dans une commune dans la région parisienne et j'ai essayé d'expliquer aux agences immobilières privées qui demandaient des garanties à n'en plus finir, etc. Je ne connais personne fondamentalement qui, quand il loue un appartement, que ce soit dans le domaine privé ou chez les bailleurs sociaux, en ayant en tête de ne pas payer son loyer. Ça n'existe pas. Des escrocs, il y en a, mais ça représente 0,01% peut-être de la population. Spontanément, quand vous savez ce que engendre le fait de ne pas payer son loyer, les problèmes que ça va générer, etc., pour sa vie et sa vie de famille ou sa vie tout seul, c'est absolument terrible. Donc ça n'existe pas, quelqu'un qui décide de prendre un appartement et de ne pas payer son loyer. Simplement, on a créé aujourd'hui une société qui fait que quand vous avez 40 ans, que vous êtes médecin et vous voulez louer un appart, on vous demande encore la caution de vos parents. Et ça, moi, je dis, c'est quand même dramatique d'en arriver à ces situations-là. Or, elles sont quotidiennes. Et tant qu'on n'arrivera pas à remettre du bon sens dans tout ça, on s'en sortira pas.
On va aller chercher des clés, il va vous donner des solutions parce qu'il a monté beaucoup d'associations. Restez avec nous sur Dynamique Radio. On passe une page musicale, c'est passionnant. À tout de suite.
Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? We'll be right back. même qu'elle pleurait.
Le boss qui justement nous parle des différences, le boss Johnny qui nous dit qu'effectivement parfois il n'y a pas qu'un délit de jeunesse dans notre pays, il y a un délit de faciès aussi. On en parle depuis quelques minutes avec Guillaume Villemot, l'histoire de le mépris, lui l'auteur de Quand le mépris devient la règle, et avec notre chroniqueuse hypnothérapeute historique Irène Cazenave qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui. Guillaume, donc nous en étions toujours à ces histoires de clanisation et mettons quand même un peu les pieds dans le plat. Parmi les clans, il y en a un parmi d'autres quand même qui défraie plus la chronique depuis plusieurs années, et pour cause, avec tout ce qui se passe, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est la clanisation des islamistes. Et Dieu sait, si vous en parlez dans votre livre, vous affrontez le sujet, hein, vous osez, vous prenez position, vous dites ce que vous en pensez, mais on est obligé de le dire. Je veux dire, on est du tout du côté de Zemmour, mais en tout cas, on est obligé de parler de cette clanisation. On ne parle pas de tous les musulmans, on est bien d'accord. Hein, on parle des islamistes, Guillaume Villemot.
Ouais, bon, je pense que c'est la clanisation religieuse. C'est-à-dire qu'au-delà de celle que l'on voit le plus, parce qu'elle a été dramatiquement visible ces dernières années, et celle des islamistes. Mais quand vous voyez, regardez les mouvements chrétiens, certaines mouvances qui ont existé, par exemple, aux États-Unis avec l'élection de Trump, ou au Brésil avec l'arrivée de Bolsonaro, les QAnon, par exemple, et l'Église évangéliste de façon plus générale, et l'Église évangéliste intégristes, comme les islamistes, qui sont encore une fois une mouvance intégriste, sont des mouvements qui sont dangereux parce que ce sont des mouvements qui manipulent. Et qui ont des modes d'expression qui sont assez simples, qui consistent à dire que eux ils ont raison et les autres ont tort, et donc on éradique ceux qui ne pensent pas comme soi. Je travaille depuis plus de 2 ans maintenant avec l'archevêque de Mossoul, donc en Irak, et qui vit donc dans une zone qui est sous domination kurde, et donc avec une forte population chrétienne dans ce coin-là, qui est la vallée de la Ninive. Et quand il vous raconte effectivement la façon dont Daesh est arrivé et ont éradiqué, mais y compris ce qui était, il y avait les populations qui ont été éradiquées, mais également tout ce qui était une trace d'une pensée différente, qui pouvait être une trace d'une pensée architecturale, qui pouvait être une trace d'une pensée écrite, culturelle, et qui ont été purement et simplement supprimer. Parce qu'on part du principe que si on supprime, ben on raconte une nouvelle histoire. On parlait tout à l'heure de ces absences de racines, etc. Et tout ça, pour moi, ça relève de la même chose. Alors, il y en a qui sont plus ou moins violentes, il y en a qui sont plus ou moins agressives, mais en tout cas, le procédé est le même, et c'est là où il y a danger.
Irène Cazenave, qu'en pensez-vous de tout ça, de cette clanisation et du phénomène islamiste en France depuis quelques années, quelques décennies?
En fait, il y a plusieurs choses qui se superposent. Il y a à la fois cette... une islamisation de quelques personnes, et puis l'amalgame qui est vite fait entre les populations musulmanes, qui sont pour la plupart modérées, entre les gens qui sont, vous parliez de délit de faciès, enfin, entre les gens qui sont d'origine maghrébine et qui sont peut-être pas religieux, et tout ça, ça pousse aussi à de plus en plus se renfermer, et ça pousse un certain nombre de musulmans qui seraient à la base plus modérés à se renfermer aussi et à adopter des codes, et notamment vestimentaires.
Une clanisation supplémentaire, enfin, ouais. Un renforcement de la clanisation, vous voulez dire, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Il y en a,
ouais.
Un renforcement, Guillaume Villemot, de la clanisation sur la religion, et notamment celle qui est la plus jeune des monothéistes, mais peut-être la plus vivace, et celle qui a peut-être, mettons les pieds dans le plat, un désir, entre guillemets, de ressentiment et de revanche pour X raisons dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est la plus jeune, mais c'est quand même celle qui... Moi, je suis désolé, on le dit à tous nos éditeurs, qui se ferait tuer aujourd'hui pour sa religion? Les fondamentalistes musulmans. Pas les chrétiens, pas les juifs, enfin, moins quand même. Eux, ils sont prêts avec des bombes à aller au Stade de France, quoi.
Mais comme
c'est
on
terrible.
Mais comme on l'a été quand on est parti à la conquête des Amériques, mais comme on l'a été
Guillaume,
quand on est allé en Afrique. Oui, mais n'oublions pas que c'est une religion qui a été révélée bien après nous.
C'est donc, ça, c'est la plus jeune.
Donc c'est la plus jeune. Donc on est sur un parcours. Alors, après, comparaison n'est pas raison, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où, de toute façon, on a une velléité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout ce qu'on veut, où on a une volonté hégémonique en disant « moi j'ai raison et les autres ont tort », quel que soit le prétexte, on a forcément une démarche qui est une mauvaise démarche. Et on va utiliser, parce que affamer une population en partant du principe que nous on sait que économiquement on est plus fort que les autres, c'est tout aussi dramatique. Elon Musk à la tête de Twitter, c'est pas rassurant et il n'est pas pour autant un fondamentaliste musulman. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est à partir du moment où on laisse des pouvoirs, où on laisse s'exprimer une pensée qui est une pensée qui se veut être supérieure aux autres et qu'on considère que sa pensée vaut mieux que celle de l'autre, on part dans une dérive qui est pour moi absolument catastrophique.
C'est pour ça d'ailleurs, Guillaume Vimeau, qu'au détour d'un des chapitres, vous dites franchement, et on va parler à un moment donné des festivals que vous êtes en train de créer depuis quelques années, vous dites il faudrait réapprendre à s'écouter et réapprendre à dialoguer. Et vous parlez même de la définition de la conversation, n'est-ce pas ? Et donc, dites quelques petits mots là-dessus. C'est réapprendre à s'écouter, à dialoguer et à converser, n'est-ce
pas ? Converser, étymologiquement, ça veut dire faire avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on accepte de faire un bout de chemin avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que Pour faire confiance aux autres, il faut déjà se faire confiance à soi-même. Donc, pour être capable de s'écouter, il faut déjà s'entendre soi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est cette difficulté qu'on a à s'auto-écouter et à se faire suffisamment confiance pour se décider de faire confiance à l'autre. Les conversations, c'est né le festival des conversations que j'ai créé il y a 10 ans maintenant.
Parlons de votre festival des conversations.
Alors, c'est un festival que j'ai créé il y a 10 ans, que j'adore, parce que tous les ans, c'est des moments absolument magiques.
Qu'est-ce qui s'y passe ? Expliquez aux auditeurs.
Je dis aux gens, venez, on va se parler. Contrairement à la fête des voisins, il faut venir avec une quiche, là vous venez avec rien. Parce que l'avantage d'une conversation, c'est que vous avez besoin, pour reprendre le slogan de McDo, c'est venez comme vous êtes. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'une conversation, il faut être dans un état d'esprit. Et l'état d'esprit d'une conversation, c'est quoi ? C'est avoir envie d'écouter l'autre.
Et ça se passe où, généralement ?
N'importe où. L'année dernière, on a organisé ça dans les rues de Roubaix, parce que voilà, j'avais envie d'aller faire ça là-bas. On a fait ça dans différents lieux de Roubaix.
Qu'est-ce
on a fait ça dans des jardins.
Au maire,
alors là, en l'occurrence, on demande au maire d'avoir un accès à différents lieux. Mais on a monté ça à Roubaix. On l'a fait dans plein d'endroits différents. Mais
concrètement,
à chaque fois,
quand même, Guillaume, les gens viennent, s'assoient autour de table, ils boivent un verre ensemble.
Par exemple, ça peut être
ils
ça.
Ils mangent une frite.
Ça peut prendre plein de formes. C'est la force de la conversation. C'est-à-dire qu'il y a le hasard dans une conversation.
Bien sûr. Et il y a l'art de la rencontre.
Absolument. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe dans un lieu et on va essayer de faire de ce lieu un moment magique où les gens vont avoir envie de venir parler aux autres. Donc, on définit un lieu, une heure, un thème et les gens qui ont envie
ils
de venir viennent.
Ils ont été au courant quand même. Vous avez fait toute
une
campagne.
Oui, on fait une petite communication locale. Par exemple, on a fait une conversation dans le cadre d'un festival qui était organisé à Roubaix, qui est le festival de la boulette.
Et
la boulette, c'est des boulettes alimentaires. Ah, donc il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits différents.
Comme en Afrique du Nord, quoi. Les boulettes.
Exactement. Et celles-là, tout type de boulettes qui de toute façon ont été inventées pour réutiliser ce qui restait dans sa nourriture.
D'accord.
Et donc on a fait un parallèle entre la boulette que l'on mange et la boulette que l'on dit. Parce que tout d'un coup, quand on parle, on fait une boulette. Exactement.
Ce qui veut dire faire une petite erreur.
Et faire une petite erreur, exactement. Et donc, ça a été un point de départ d'une conversation. On a fait une autre conversation dans un jardin partagé, un potager partagé, sur le temps. Parce que pour une conversation, il faut du temps. Et le parallèle entre le temps...
On n'est pas très riche en temps, les
humains.
Non,
on n'est pas très riche.
On est pauvre en temps.
Mais absolument. Regardez, là, on travaille, on a un chronomètre devant nous.
On est pauvre en temps, les humains.
Et donc, c'est ça. C'est que cette notion du temps, c'est la même chose que la notion du temps que l'on met pour qu'un légume ou un fruit pousse.
Irène Cazenave, votre sentiment en tant qu'hypnothérapeute sur cette idée géniale qu'ils ont eue de créer le Festival des Conversations, c'est pas mal, qu'en pensez-vous ?
Ah mais je trouve ça absolument, absolument génial, mais je reviens encore sur cette question d'aller vers l'autre et de la difficulté qu'ont certaines personnes à aller vers l'autre parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur valeur, ils ne sont pas sûrs de dire quelque chose d'intéressant. Et ce que je trouve justement très, très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on vient pour écouter. Et se dire je vais déjà écouter l'autre, ça peut être une première marche pour les gens qui se disent ah mais moi j'ai rien à dire.
Et comme disait Claudel, parler est un besoin, écouter un talent. Parler, c'est plus facile pour beaucoup d'êtres humains que d'écouter. Écouter, c'est du talent. Écoutez vraiment, et je parle pas de ce que j'appelle moi chez les politiques le CT, l'écoute cause toujours. Je coche la case écoute, en fait, c'est les antipodes, Guillaume Vilmaud.
Mais j'ai sur mes cartes de visite, il y a cette citation d'Hemingway qui dit on met 2 ans pour apprendre à parler et 40 pour apprendre à se taire. Mais c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que cette capacité d'écouter, elle est compliquée. Mais parce que culturellement, on nous l'apprend pas à l'école. On apprend à avoir une écoute passive et pas une écoute active. C'est-à-dire qu'on nous dit chut. Et ça s'arrête là. Et alors que si vous prenez le modèle anglais, vous avez des espaces, enfin, sous le régime de la reine Victoria, ont été signés les premiers décrets qui créaient ce qu'on appelle les speaker corners dans les parcs. C'est-à-dire que celui qui existe à Hyde Park aujourd'hui, où chacun peut venir parler de tout, à partir du moment où vous l'étayez à minimum, mais vous pouvez tout dire, les pires horreurs. Les gens qui passent vous écoutent. Alors, ils ont le droit de ne pas être d'accord, parce qu'une conversation, ce n'est pas être d'accord avec l'autre. Mais une conversation, c'est encore une fois, c'est construire quelque chose. Et on ne nous apprend pas ça, nous. On nous apprend à avoir une écoute qui, encore une fois, qui est une écoute passive. Or, une conversation, ça repose sur une écoute active. C'est-à-dire de se dire, non pas je me tais parce que je prépare ma réponse, parce que je sais ce que je vais dire, non pas en réponse, mais parce que je veux passer une punchline à un moment donné, par exemple. Mais une conversation, ça ne se construit pas comme ça.
Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand même, le modèle dominant, moi qui suis aussi un spécialiste de la communication, mais on est très complémentaires, Guillaume Vigneault, parce que vous êtes dans les boîtes de com. Moi, j'apprends la communication inter- et intrapersonnelle dans la formation continue. Et c'est le même mot, mais on ne travaille pas tout à fait sur le même plan.
Absolument.
Parce que la com, elle est destinée à rendre légitime des entreprises, à un produit et tout ça. Nous, on s'occupe de l'authenticité. C'est-à-dire que la com des politiciens, excusez-moi de vous dire, et la com des gens qu'on voit sur les plateaux de télé et de radio ces dernières années, pourtant on est des médias, nous, c'est la com où l'écoute est catastrophique. Catastrophique. C'est qu'il n'y a aucune écoute authentique. Qu'en pensez-vous, Irène? C'est que je suis en train d'écouter en ayant comme tentative d'argumentation de savoir qu'est-ce que je vais contre-argumenter tout de suite sans prendre en compte la parole de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Irène?
Mais c'est exactement ce que disait Guillaume tout à l'heure avec les sachants qui arrivent avec
une
pensée qui est très péremptoire et qui n'est pas justement à l'écoute de l'autre. Alors que la construction et la construction d'une société, elle se fait aussi parce que chacun écoute l'autre, chacun écoute le point de vue de l'autre et qu'on construit quelque chose de plus grand ensemble.
Guillaume Vimot.
Il y a une chose qui est dramatique qui a été inventée par les communicants, c'est cette phrase à destination sur les politiques qui sont les éléments de langage.
Ah là 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 là
là là là là là là
là là là
là là là là là là là là là là là là là là là hésitant, va peut-être dire une bêtise, mais va en tout cas être dans la spontanéité de son message que quelqu'un qui est dans le stéréotype de l'élément de langage.
Voilà peut-être pourquoi la seule parole juste que j'ai entendue de la part, dans la bouche, sortant de la bouche d'un politique, et pourtant quelqu'un que je porte pas dans mon cœur, un jour, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, chers amis éditeurs, a dit « Les politiciens parlent une langue morte. Mais volins, nolins, cette langue morte qu'ils parlent, on l'entend à longueur de journée, des matinales jusqu'à minuit sur toutes les bandes radio et télé les plus écoutées. Et pourtant, de fait, les politiciens parlent une langue morte que les gens n'ont plus envie d'écouter. » On passe une page de musique, restez avec nous, c'est passionnant et on continue d'investiguer l'histoire du mépris.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Il me reste combien de temps?
Une magnifique chanson sur ce qui nous touche tous autour de cette table, chers auditeurs, c'est-à-dire la fraternité. Et Dieu sait si je pense que d'ailleurs, les derniers chapitres de votre livre, ça nous permet d'en parler. Guillaume Villemot ouvre vers cela, n'est-ce pas? Je sais que ça nous parle à tous ici, la fraternité. Et je pense qu'effectivement, c'est certainement dans le triptyque liberté, égalité, fraternité de notre pays, certainement ce qu'il faut développer. Mais j'aimerais vraiment que vous nous disiez votre sentiment là-dessus, Guillaume, parce qu'il y a de très belles pages dans votre livre. Guillaume, la fraternité.
Waouh. Non, mais la fraternité, je pense que justement, ces trois piliers de nos devises républicaines, c'est celle sur laquelle on a le plus le moyen d'agir individuellement et qu'on a tendance à négliger un peu. On l'oublie, on parle de la liberté, on parle de l'égalité, mais la fraternité, on a tendance à la mettre de côté. Or, probablement, c'est celle qui est la plus essentielle, ou en tout cas, qui fait que cet équilibre, ce triptyque, est un triptyque équilibré entre liberté, égalité et fraternité. Mais encore une fois, il faut qu'on ait envie de s'en emparer, il faut que on sache quoi en faire, parce que je pense que c'est ça aussi le sujet, c'est que la fraternité, ça veut dire qu'il faut avoir cette curiosité d'aller se frotter aux autres et de ces autres qui ne font pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes origines que moi, qui ne viennent pas des mêmes territoires que moi. Et pour revenir au début de l'émission, comme je disais, mais que je m'étais fait gentiment rabrouer par une étudiante, qui disait « mais qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous vous occupez de nous ?» Mais c'est pas, je m'occupe. C'est pas condescendant, c'est juste qu'à un moment donné, c'est un sujet de société, et que ce sujet de société, il nous concerne tous, et que ces sujets de société nous concernent tous, et qu'on ne doit pas les réserver à certains qui auraient plus ou moins de capacité à pouvoir s'en emparer. On doit tous avoir envie de faire que notre société aille mieux, et ça nous concerne tous.
Irène Cazenave, vis-à-vis de la sororité, pour le coup, qui est l'autre pièce de la fraternité.
Il y a même un terme qui englobe hommes et femmes, qui est adelphité. Mais on peut rester sur la fraternité, enfin, même si c'est un peu clivant pour les femmes, on le prend quand même. Ce qui est intéressant, c'est dans le terme fraternité, ou sororité, ou adelphité, c'est que tout le monde est au même niveau. On est dans une
horizontalité.
On est dans une horizontalité des relations et pas une verticalité. Quel que soit effectivement l'endroit d'où on vient, l'âge qu'on a, et c'est effectivement le prisme par lequel on peut passer par l'égalité et qui a été justement peut-être insuffisamment développé.
Mais est-ce franchement, chers amis, et je pense que nos auditeurs, s'ils avaient pu appeler cette fois-ci, nous auraient posé la question. À un moment donné, on se demande si c'est pas une aporie. C'est clair, parce que Volins Nolins, quand on voit que nous, on aime ça, et je pense qu'on a raison d'être dans ces dimensions gandhiennes, de dire on doit être le changement qu'on veut voir dans ce monde. Mais Volins Nolins, pour d'autres, c'est des soft skills, c'est pas des hard skills. Je veux dire, comme dirait Poutine, lui, la fraternité, combien de bataillons? Le Vatican, combien de bataillons? J'arrive avec mes chars, mes tanks, et je vous détruis tous la gueule. Et c'est bien le problème de l'humanité, c'est que nous, on est pour ça, et on a raison. À la place de Guillaume, à votre place, à la mienne, et on est des millions à le faire, à lutter contre ça. Mais Guillaume, vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas face aux hard skills, les compétences dures, les armées, les armes, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre fraternité?
Il y a une phrase de Mère Teresa que j'aime beaucoup, qui dit « c'est peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan n'aura plus jamais le même goût ».
Je suis d'accord.
C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas... Enfin, je, pendant très longtemps, j'ai cru que j'allais pouvoir sauver le monde. Il y a un moment donné où je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Bon, c'est pas facile, mais une fois qu'on s'en rend compte, déjà, je trouve qu'on va beaucoup mieux quand on s'en rend compte.
Et on a plus la mégalo.
Mais non, mais c'est ça. Et on se dit, mais on va déjà agir à sa propre échelle et on va agir autour de soi. Quand on fait le Festival des Conversations et quand j'ai à chaque fois une personne qui vient me voir en disant « Ah, mais j'ai compris, c'est facile. Ah ben tiens, je vais faire ça avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes voisins, etc. » Mais je me dis, banco, on a gagné, on en a fait. On parlait de Roubaix l'année dernière. Tout à l'heure, on en a fait l'année dernière dans un EHPAD à Roubaix avec le patron de la danse du département du Nord. Et c'était extraordinaire parce que on avait en face de nous des gens qui étaient, qu'on avait contraints, parce que, quand même, globalement, on leur avait dit, il y a une animation qui se passe à telle heure dans le hall, donc ils y étaient allés, parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Et il a mis en danse les mots qui ont été employés. Ça a été un moment, mais absolument extraordinaire. Et le regard de ces gens, à qui tout d'un coup on donnait la possibilité de pouvoir parler d'autre chose que, et alors, il est content, il a bien mangé, c'était bon, etc. De recréer un lien normal, mais c'était absolument magique. Et je me dis, si on a réussi à faire ça, bah tant mieux, on a gagné notre combat, et c'était une bonne chose que de le faire.
Qu'est-ce que vous en pensez de ces magnifiques opérations, Irène Cazenave ? C'est beau quand même, hein ?
Oui, mais c'est le fameux qui sauve une vie, sauve l'humanité. Il y a vraiment
la liste de Schindler.
Il y a vraiment aussi reprendre cette mesure-là. Et moi, il me semble quand même, mais c'est peut-être utopiste de ma part.
Oui, mais rappelez-vous, c'est beau, Thomas More, l'utopie, c'est concret, réel, avec l'utopie.
La clanisation, elle cherche aussi cette fraternité quelque part, mais elle la cherche dans une petite bulle, elle la cherche dans un aquarium au lieu de la chercher dans la mer, quoi.
C'est ça.
Ah oui, alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que la fraternité clanisée, c'est pas celle que vous cherchez et que nous cherchons, nous. On est des universalistes, nous.
Oui, parce qu'il y a cette fraternité, effectivement, qui existe à l'intérieur du clan. C'est-à-dire que le clan vaut par-dessus tout et est capable de se sacrifier pour un membre du clan. Mais nous, ce qu'on dit, enfin, moi, en tout cas, ce à quoi je crois, c'est que cette clanisation, elle doit... cette fraternité, elle doit vivre au-delà du clan. Elle doit s'établir et s'élargir au plus grand nombre de façon à pouvoir véritablement prendre forme et prendre corps.
Eh bien oui. Écoutez, moi, je pense que Guillaume Villemot, vous reviendrez, hein, parce qu'on va d'abord travailler sur le prochain livre. On fera une belle émission dessus. Merci Irène Cazenave. Ça a été passionnant. Vous nous avez encore éclairé de vos lumières passionnantes. Franchement, je rappelle le livre de Guillaume Villemot. Franchement, je vous conseille d'aller le chercher. Je pense qu'il est chez tous les bons libraires et il est partout sur Amazon. Donc, je vous rappelle le titre du livre « Quand le mépris devient la règle » aux éditions de l'Aube. Rappelez-vous le fondateur de ces...
Jean Viard,
sociologue extraordinaire.
Et qui est un sociologue positif. Et il a été bien tensé récemment en disant « Mais il est trop positif, c'est fatigant. » Ben non, on peut être sociologue et positif.
Et puis, on a le droit d'être optimiste.
Absolument.
Franchement, comme dit Matin et Saint-Limal. Chers amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de « Pour vivre heureux, vivons coach. Et n'oubliez jamais une phrase qui nous est chère à tous les trois, cette phrase de Saint-Exupéry, l'immense Saint-Exupéry: frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. À la semaine prochaine, on vous embrasse.
Vivre heureux, vivons coachés, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.